Une lieue et demie de galop lui calma un peu l'imagination. « Rappelle-toi, mon garçon, qu'un cadavre ne paie pas d'intérêt », avait-il entendu répéter par ses oncles banquiers depuis sa petite enfance. Au bout du compte, chacun ne se bat bien qu'avec les armes qui lui sont propres. Guccio, ainsi que tout Oscan aisé, savait assez convenablement manier les lames courtes, mais ce n'était pas là sa spécialité. Il ralentit donc à l'entrée de Montfort-la-Maury, mit son cheval et son esprit au calme, et se présenta à la prévôté. Comme le sergent de garde ne lui montrait pas tout l'empressement souhaité, Guccio sortit de dessous son manteau le sauf-conduit, scellé du sceau royal, que Valois lui avait fait établir pour les besoins de sa mission à Naples. Les termes en étaient assez larges, je requiert tout bailli, sénéchaux et prévôts de porter aide et assistance, pour que Guccio pût l'utiliser encore. « Service du roi !» dit-il. À la vue du sceau royal, le sergent de la prévôté devint aussitôt courtois et zélé et courut ouvrir les portes. « Tu feras manger mon cheval !» lui ordonna Guccio. Les gens sur lesquels nous avons eu une fois l'avantage se tiennent généralement pour battus d'avance dès qu'ils se retrouvent en notre présence. Veulent-ils regimber, cela ne change rien. Les eaux coulent toujours dans le même sens. Ainsi en était-il entre Portefruit et Guccio. Les sourcils ronds, les joues rondes, la panse ronde, le prévôt, vaguement inquiet, roula plutôt qu'il ne marcha au devant de son visiteur. La lecture du sauf-conduit ne fit que le troubler davantage. Quelles pouvaient bien être les fonctions secrètes de ce jeune Lombard? Venait-il enquêter, inspecter? Le roi Philippe le Bel avait ainsi de ses agents mystérieux qui, sous le couvert d'un autre métier, parcouraient le royaume, faisaient leurs rapports. Et puis soudain, une grille de prison s'ouvrait. « Ah, messire Portefruit, avant toute chose, je veux vous apprendre, dit Guccio, que je n'ai point parlé en haut lieu de cette affaire de taille de mutation pour les sires de Cresset qui nous donna occasion de nous rencontrer l'autre année. J'ai bien admis qu'il s'agissait d'une erreur, et ceci pour vous tranquilliser. » Belle manière, en effet, de rassurer le prévôt. C'était lui dire en clair, dès l'abord, « Je vous rappelle que je vous ai pris en flagrant délit de prévarication et que je puis le faire savoir quand je voudrais. » La face lunaire du prévôt pâlit un peu, ce qui accentua par opposition la couleur vineuse de la tache de naissance qui lui couvrait la tempe et une partie du front.
« Je vous sais gré, messire Baglioni, de votre jugement, » répondit-il. « En effet, c'était une erreur. D'ailleurs, j'ai fait gratter les livres. »
« Ils avaient donc besoin d'être grattés ?» remarqua Guccio. L'autre comprit qu'il venait de prononcer une sottise dangereuse. Décidément, ce jeune Lombard avait le don de lui brouiller la tête.
« J'allais justement me mettre à dîner, » dit-il pour changer au plus vite de sujet. « Me ferez-vous l'honneur de partager ?»
Il commençait de se montrer obséquieux. L'habileté commandait à Guccio d'accepter. Les gens ne se livrent jamais mieux qu'à table. Et puis, Guccio, depuis le matin, avait beaucoup couru sans rien manger. Si bien qu'étant parti de Naufle pour tuer le prévôt, il se retrouva confortablement assis en face de lui, et ne se servant de sa dague que pour trancher dans un cochon de lait rôti à point et qui baignait dans une belle graisse dorée. La chair que faisait le prévôt au milieu d'un pays en famine était proprement scandaleuse.
« Quand je pense, se disait Guccio, que je suis venu quérir de quoi nourrir Marie et que c'est moi qui suis à Goinfray. »
Chaque bouchée accroissait sa haine. Et comme le prévôt, croyant se concilier son visiteur, présentait ses meilleures provisions et ses vins les plus rares, Guccio, à chaque rasade qu'on le forçait d'accepter, se répétait.
« Il rendra compte de tout cela, ce malfaiteur. J'agirai si bien que je l'enverrai se balancer au bout d'une corde. »
Jamais repas ne fut dévoré avec plus d'appétit de la part de l'invité et si peu de bénéfices pour celui qui l'offrait. Guccio ne manquait pas une occasion de mettre son hôte mal à l'aise.
« J'ai appris que vous aviez acquis des faucons, messire Portefruit, » demanda-t-il soudain. « Avez-vous donc le droit de chasser comme les seigneurs ?»
L'autre s'étrangla dans son gobelet.
« Je chasse avec les seigneurs d'alentour, lorsqu'ils veulent bien m'y convier, » répondit-il vivement.
Il chercha une nouvelle fois à dévier le cours de la conversation et ajouta
« Vous voyagez beaucoup, il me semble, messire Baglioni. »
« Beaucoup, en effet, » répondit Guccio avec détachement. « Je reviens d'Italie, où j'avais affaire pour le compte du roi auprès de la reine de Naples. »
Portefruit se rappela que, lors de leur première rencontre,
C'était d'une mission auprès de la reine d'Angleterre que Guccio revenait. Ce jeune homme devait être bien puissant, qui paraissait surtout employé à courir vers les reines. En outre, il savait toujours les choses qu'on eût préféré taire.
« Maître Portefruit, les commis du comptoir que mon oncle possède à Naufle sont réduits à bien grande misère. Je les ai trouvés malades de faim et ils m'assurent qu'ils ne peuvent rien acheter, » déclara soudain Guccio.
« Comment expliquez-vous que sur un pays si ravagé par la disette, vous imposiez des dîmes en nature et passiez prendre et saisir tout ce qu'il y reste à manger ?»«
Allez, messire Baglioni, c'est une grave question pour moi et une grande affliction, je vous le jure, mais je dois obéir aux ordres de Paris. Je suis tenu d'envoyer chaque semaine 3 charrettes de vivres, comme tous les autres prévôts de Paris-ci, parce que monseigneur de Marigny craint l'émeute et veut tenir sa capitale en main. Comme toujours, c'est la campagne qui souffre. »
Et quand vos sergents ramassent de quoi remplir 3 charrettes, ils peuvent aussi bien en remplir 4 et vous en garder une. L'angoisse afflua au cœur du prévôt. Le pénible dîner.
Jamais, messire Baglioni, jamais! Qu'allez-vous penser? Allons, allons, prévôt! D'où vient tout ceci?
S'écria Guccio en désignant la table. Les jambons, que je sache, ne viennent pas tout seuls se pendre à votre heurtoir! Et vos sergents ne sont pas prospères, comme on les voit, à seulement lécher la fleur de lys de leur bâton.
Si j'avais su, pensa Portefruit, je l'aurais moins bien traité. Mais c'est que, voyez-vous, répondit-il, si l'on veut maintenir l'ordre dans le royaume, il faut nourrir honnêtement ceux qui ont charge d'y veiller.
Assurément, dit Guccio, assurément. Vous parlez comme il faut. Un homme nanti d'un si haut office que le vôtre ne doit point raisonner comme les gens du commun, ni ne saurait agir de leur façon.
Il devenait soudain approbateur, amical, et paraissait se rendre entièrement aux vues de son interlocuteur. Le prévôt, qui avait bu à suffisance pour reprendre courage, donna dans le panneau.
« Ainsi pour les tailles d'impôts, » reprit Guccio.
« Les tailles ?» dit le prévôt.
« Eh bien oui, vous les avez en fermage. Or, il faut que vous viviez, que vous payiez vos commis. Alors forcément, vous devez prélever plus que ce qui vous est requis par le trésor. Comment vous y prenez-vous ? Vous doublez la taille, n'est-ce pas ? C'est ce que font, à ma connaissance, tous les prévôts. »
« À peu près, » dit Portefruit, se laissant aller parce qu'il pensait avoir affaire à quelqu'un d'averti. « Nous y sommes bien obligés. Déjà, pour avoir ma charge, j'ai dû fourrer la paume à l'un des commis de Marigny. »
« Un commis de Marigny, vraiment ? » ?»«
Eh oui. Et je continue de lui glisser une coquette bourse à chaque Saint-Nicolas. » Il me faut partager aussi avec mon receveur, sans parler de ce que me regratte le bailli qui est au-dessus de moi. Au bout du compte, il ne vous reste pas tellement pour vous-même, j'entends bien.
Alors, prévôt, vous allez me porter aide, et moi, je vais vous proposer un marché où vous ne perdrez point. Et je suis en peine pour nourrir mes commis de Naufle. Chaque semaine, vous leur délivrerez en sel, farine, fèves, miel et viande fraîche ou séchée ce qu'il leur est de besoin et qu'ils vous paieront au meilleur prix de Paris, avec encore un petit surcroît de 3 sols à la livre. Je me dispose même à vous laisser 20 livres d'avance, dit-il en faisant sonner sa bougette.
Le tintement de l'or acheva d'endormir la défiance du prévôt. Il discuta un peu pour la forme, les poids et les prix. Il s'étonnait des quantités demandées par Guccio.
Vos commis ne sont que 3. Leur faut-il vraiment tant de miel et de pruneaux? Oh, je peux fournir.
Comme Guccio souhaitait emporter sur le champ quelques provisions, le prévôt le conduisit dans sa réserve qui ressemblait fort à un entrepôt. Maintenant que le marché était conclu, à quoi bon dissimuler? Et d'une certaine manière, le prévôt éprouvait de la satisfaction à montrer, impunément, croyait-il, ses trésors alimentaires. Le nez en l'air, les bras courts, il s'agitait parmi les sacs de lentilles et de pois secs, humait les fromages, caressait de l'œil les chapelets de saucisses. Bien qu'il eût passé 2 heures à table, il semblait que l'appétit lui fût déjà revenu.
Les gaillards mériteraient qu'on le vienne piller à coups de fourche, pensait Guccio.
Un valet prépara un fort paquet de victuailles qu'on dissimula dans une toile et que Guccio fit accrocher à sa selle.
« Et si d'aventure, » dit le prévôt en raccompagnant son hôte, « vous manquiez vous-même à Paris ?»«
Je vous remercie, prévôt. Je m'en souviendrai. Mais sans doute ne tarderez-vous pas à me revoir. Et de toute façon, soyez sûr que je parlerai de vous comme il faut. »
Là-dessus, Guccio repartit pour Naufle, où il remit aux 3 commis, éblouis et salivants, la moitié de son butin.
Il en sera ainsi chaque semaine, leur dit-il. C'est chose convenue avec le prévôt. De ce qu'il vous fournira, vous ferez deux parts. L'une pour vous, l'autre qu'on viendra prendre de Crécy ou que vous y porterez bien prudemment. Mon oncle s'intéresse fort à cette famille qui est mieux en cours qu'elle n'en donne l'aspect. Qu'on veille donc à la ravitailler.
Paieront-ils ces vivres en espèces ou bien faudra-t-il en augmenter leurs créances ? Demanda le chef du comptoir.
Vous tiendrez un compte à part que je surveillerai. 10 minutes plus tard, Guccio arrivait au manoir et posait au chevet de Marie de Crécy miel, fruits séchés et confiserie. J'ai remis en bas à votre mère du porc salé, des farines, du sel. Les yeux de la malade s'emplirent de larmes.
Comment avez-vous réussi ? Messire Guccio, vous êtes donc magicien. Du miel, oh, du miel.
Je ferai bien plus pour vous voir reprendre force et pour la joie d'être aimé de vous. Chaque 8 jours, vous en recevrez autant par mes commis. Croyez-moi, ajouta-t-il en souriant. Cet ouvrage moins difficile que de débusquer un cardinal en Avignon.
Cela lui rappela qu'il n'était point venu à Crécy uniquement pour y nourrir les affamés, et, profitant de ce qu'ils étaient seuls, il demanda à Marie si le dépôt qu'il lui avait confié l'automne passé se trouvait toujours à la même place dans la chapelle.
« Je n'y ai point touché, » répondit-elle.
« J'avais grande inquiétude de mourir sans savoir ce que je devais en faire. N'en soyez plus en peine, je vais le reprendre. Et de grâce, si vous m'aimez, ne songez plus à mourir. »«
Plus maintenant, » dit-elle en souriant à son tour.
Il la laissa puisant dans le pot de miel à petite cuillerée et d'un air d'extase.
Tout l'or du monde, tout l'or du monde pour lui voir ce visage heureux. Elle vivra, j'en suis sûr. Elle est malade de faim, certes, mais surtout, elle était malade de moi, pensait-il avec la belle fatuité de la jeunesse.
Descendu dans la grande salle, il prit d'Amélia Belle à part pour lui dire qu'il avait rapporté d'Italie d'excellentes reliques, fort efficaces, et qu'il souhaitait prier dessus, seul dans la chapelle, afin d'obtenir la guérison de Marie. La veuve s'émerveilla de ce qu'un jeune homme si dévoué, si allant, si habile, fut en même temps si pieux. Guccio, ayant reçu la clé, gagna la chapelle où il s'enferma. Il n'eut pas de peine à retrouver la dalle près de l'autel, la souleva et, d'entre les ossements effrités d'un lointain sire de Crécy, retira l'étui de plomb qui contenait, outre le double des comptes du roi d'Angleterre et de Monseigneur d'Artois, la pièce attestant les malversations de l'archevêque Jean de Marigny.
« Voilà une bonne relique pour guérir le royaume, » se dit-il.
Il replaça la dalle, la recouvrit d'un peu de poussière et sortit, prenant une mine dévote. Bientôt après, ayant reçu remerciements, embrassa des bénédictions de la châtelaine et de ses fils, il se remit en route. Il n'avait pas franchi la Maudre que les Crécy déjà se précipitaient à la cuisine.
« Attendez, mes fils, attendez au moins que je vous apprête un repas !» dit Amélia Belle.
Mais elle ne put empêcher les deux frères de tailler de larges rondelles dans une saucisse séchée.
« Ne pensez-vous pas que Guccio était pris de Marie, pourtant se soucier de nous ?» dit Pierre de Crécy. « Il ne nous réclame pas nos dettes, ni même les intérêts, et au contraire nous couvre de présents. »«
Mais non !» répondit vivement Amélia Belle. « Il nous aime tous bien, voilà tout, et il est honoré de notre amitié. »«
Ce ne serait point un si mauvais parti, » dit encore Pierre.
Jean, l'aîné, grogna dans sa barbe. Pour lui, qui était en position de chef de famille, la perspective d'accorder sa sœur à un Lombard heurtait toutes les traditions de noblesse.
Si telle était ses intentions, jamais je n'accepterais.
Mais comme il avait la bouche pleine, il se retint d'achever sa pensée. Certaines circonstances endorment un moment scrupules et principes, et Jean de Crécy, mâchant, demeura songeur. Cependant, Guccio, trottant vers Paris, se demandait s'il n'avait pas eu tort de partir si vite et de ne pas saisir l'occasion pour solliciter la main de Marie.
« Non, c'eût été indélicat. On ne présente point pareille requête à des gens affamés. J'aurais paru vouloir profiter de leur misère. J'attendrai que Marie soit guérie. »
En vérité, le courage de la décision lui avait fait défaut et il cherchait des excuses à son manque d'audace. La fatigue à la tombée du jour l'obligea de s'arrêter. Il dormit quelques heures à Versailles, petit village triste et isolé au milieu de marécages insalubres. Les paysans, là aussi, mouraient de faim. Le lendemain matin, Guccio arrivait rue des Lombards. Aussitôt, il s'enferma avec son oncle, auquel il raconta, d'un ton indigné, tout ce qu'il venait de voir. Son récit occupa une grande heure, mais Sertolomei, assis devant son feu, écoutait, très calmement.
« J'ai bien fait pour la famille Cresset. Tu m'approuves, n'est-ce pas, mon oncle ?»«
Certes, certes, mon ami, je t'approuve. Et d'autant plus volontiers qu'il ne sert de rien de discuter avec un amoureux. Tu as rapporté la décharge de l'archevêque ?»«
Oui, mon oncle, »
répondit Guccio en lui tendant l'étui de plomb. « Tu me dis donc, » reprit Tholomei, « que le prévôt de Montfort t'a déclaré percevoir le double des tailles dont il reverse une partie à un commis de Marigny. Sais-tu quel commis ?
Je pourrais le savoir. Ce drôle me croit maintenant très fort, son ami.
Et il affirme que les autres prévôts agissent de même.
Sans hésiter. N'est-ce point une honte ? Et ils font un infâme commerce de la faim, et ils s'engraissent comme porcs, tandis qu'autour d'eux, le peuple crève. Le roi ne devrait-il pas en être averti ?
L'œil gauche de Tholomei, cet œil qu'on ne voyait jamais, s'était brusquement ouvert, et tout son visage en prenait une expression différente, à la fois ironique et inquiétante. En même temps, le banquier frottait l'une contre l'autre, lentement, ses mains grasses et pointues.
Eh bien, ce sont de fort bonnes nouvelles que tu m'apportes là, mon cher Guccio.
De fort bonnes nouvelles, dit-il en souriant.